Bienvenue sur Smart Report, le podcast dédié à la fonction finance et à la consolidation.
Produit par Bismart en partenariat avec Amelkis, ce contenu exclusif décrypte les réglementations et leurs évolutions tout en explorant les dernières innovations.
Smart Report, des regards d'experts et de dirigeants pour éclairer les décideurs financiers.
Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Report, le podcast coproduit par Bismart et Amelkis. Nous vous retrouvons donc pour cette série d'entretiens avec des experts, des dirigeants, des consultants qui viennent partager leur vision de la digitalisation du reporting financier, de sa réglementation et des nouveaux leviers d'efficacité pour les entreprises et leur direction financière. On est aujourd'hui dans un épisode où j'ai le plaisir de recevoir à ma droite, comme sur l'épisode d'avant, Mathieu Gara. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de la BU ESG et XBRL au sein d'Amelkis.
Tout à fait.
On reviendra sur ce bel acronyme XBRL dans un instant. Merci d'être avec nous.
Avec plaisir.
Nous accueillons aujourd'hui Roman Maguet. Bonjour Roman.
Bonjour.
Vous êtes manager au sein du cabinet BMEA. BMEA, c'est un cabinet qui est présent dans l'advisory, financier, orga. On a même reçu quelqu'un de chez vous dans l'IA il n'y a pas si longtemps.
Julien.
Exactement. Donc merci aujourd'hui de venir représenter ce beau cabinet. Une première question, Mathieu. On a déjà parlé un petit peu d'ESG dans un autre épisode, mais je me permets quand même de le dire, il faut qu'on perce l'abcès. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui sont, je pense, dans l'attente par rapport au sujet ESG, du fait de toutes les évolutions qu'il y a eu. Certains parlent d'un retour en arrière. Et il y en a certainement qui se demandent pourquoi investir et s'il est risqué de ne pas le faire, s'il n'est pas urgent de ne rien faire. Alors, c'est ma première question, Mathieu. Est-ce qu'il est urgent de ne rien faire en matière d'ESG?
Alors, il est urgent de faire quelque chose. Rien faire, c'est justement ce qu'il ne faut pas du tout commencer à appréhender, parce que sans aucune information, on va aller au-devant du problème et on va prendre le problème de plein fouet. De nos jours, on a de plus en plus de demandes au niveau des informations ESG qui sont pas portées par la réglementation, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais par le marché, tout simplement.
Donc c'est le marché qui pourrait faire le retour de bâton, que ce soit fournisseur, appel d'offres, consommateur.
On a déjà eu des sollicitations par nos clients pour mettre en urgence en place des rapports ESG, car les banques ou les investisseurs leur demandaient des informations qu'ils n'avaient pas.
Bon, ben, au moins, on sait qu'il faut continuer à agir. Et vous faites écho, Mathieu, avec la première question qu'on avait préparée pour Roman, puisque agir aujourd'hui, c'est un sujet pour anticiper des demandes futures, mais c'est également un sujet de culture d'entreprise. Et c'est bien ça, la première question, Roman. Comment la culture d'entreprise peut-elle influencer le succès d'une initiative ESG?
Alors, sans culture d'entreprise, les initiatives ESG seront, pas vouées à l'échec, mais réussiront difficilement. Parce que pour moi, un vrai facteur de succès dans les initiatives ESG, c'est vraiment qu'elles soient soutenues par la direction ou par la gouvernance. Parce que sans ça, si c'est fait par une personne ou une équipe, ça va s'essouffler assez vite. Alors que quand elles sont vraiment portées au-dessus par la direction, les personnes se sentiront déjà plus soutenues et ça ira plus loin. Ça sera vraiment dans une démarche ESG globale et dans une stratégie.
On parle ici de ne pas laisser la direction ESG, direction RSE, seul face à cet enjeu, parce que pour parler franchement, ce sont des équipes qui sont payées pour faire de la RSE, donc forcément ils sont onboardés sur le sujet, mais on parle ici de ne pas les laisser seuls et de bien les recoller, les suivre avec la direction générale, les directions de BU, des opérationnels.
Oui, c'est ça.
Et alors
voire même le COMEX qui doit s'emparer du sujet pour après amener justement la vision stratégique de ce déploiement et de son efficacité, de son impact sur le business, tout simplement.
Et alors, si on a le soutien du COMEX, qu'on a un bon sponsoring en interne, il y a des stratégies qui peuvent être mises en place qui provoquent l'adhésion en interne?
Des stratégies d'entreprise?
Ou des stratégies pour provoquer l'adhésion à la thématique ESG en interne vis-à-vis des collaborateurs, des parties prenantes internes ou externes à l'initiative ESG?
Oui, donc en fait, c'est bien si c'est effectivement lancé, par exemple, de la direction RSE. Et une vraie stratégie, c'est d'embarquer les parties prenantes internes, donc les collaborateurs, vraiment pas le faire dans son coin. Donc, demander aux collaborateurs d'être investis dans le sujet, que ça soit au niveau des actions ou aussi, on va le parler peut-être après, du reporting, c'est d'avoir aussi plus de contributeurs, parce que la RSE, c'est un vrai sujet transverse. Donc, avoir le plus possible de parties prenantes internes onboardées sur le sujet et que ça soit, donc, comme on le disait, soutenu par la direction, le CODIR, le COMEX. Voilà.
Donc, on a le COMEX, on a les champions. Donc, on vous a parlé d'une première difficulté à éviter, c'est d'être seul face à la thématique. Mais c'est bien ma prochaine question, Romane. Quels sont les... Au-delà de ce sujet de sponsoring et de soutien et de communauté en interne, il y a d'autres difficultés qu'il faut un petit peu désamorcer avant de se lancer dans un tel projet?
Oui, donc la première difficulté qu'on entend beaucoup aussi en ce moment, c'est le manque de clarté, par exemple, des normes, parce que ça peut être un peu compliqué. On peut en avoir aussi beaucoup de normes, de standards. Donc déjà, c'est par où commencer, qu'est-ce qu'on est obligé de faire en tant qu'entreprise, à quoi on est soumis. Et si on est soumis à rien de façon réglementaire obligatoire, qu'est-ce qu'on fait? Et aussi, les normes en tant que telles peuvent être un peu compliquées et source de questionnement, d'interprétation. Donc, c'est vrai qu'au début, ça peut paraître un peu compliqué d'avoir tout ça et se dire par où commencer. Donc, il faut prendre les choses petit à petit, se dire on commence déjà par savoir qu'est-ce qu'on doit faire, et ensuite regarder si c'est par exemple la norme ESRS, regarder les normes et se dire petit à petit, en fait, faire les choses étape par étape pour ne pas se sentir trop impuissant,
submergé.
Par la quantité de documents, par la qualité de rédaction des normes, qui est, quand je télécharge un PDF et qui fait plus de 1000 pages, je suis d'entrée un peu découragé.
Commence à être fébrile tout de suite.
Voilà. Et puis après, il y a aussi le vocabulaire utilisé, la qualité de rédaction, qui fait que ça devient très technique, et donc pour s'approprier les sujets, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Et c'est vrai que tu parlais de qu'est-ce qui peut aider en interne, la vulgarisation aide aussi, la pédagogie sur les sujets, et c'est comme ça aussi que ça permet de motiver en interne sur ces questions-là, puisque après on a une application plutôt concrète assez rapidement.
C'est le cadre, c'est de où est-ce qu'on dessine le cadre dans un premier temps, qui est tout l'enjeu. Quand vous commencez à travailler, vous, à Melkis, avec des directions financières ESG, enfin des entreprises, en général, justement, sur cette définition du cadre, vous, Mathieu, qu'est-ce qui vous semble être le key success factor
Alors, c'est d'abord et avant tout l'approche de l'entreprise qui vient nous solliciter pour mettre en place ces solutions de collecte, de consolidation et de reporting au niveau des ESG. C'est vraiment le fait d'être porté par une mission en interne au niveau de l'entreprise et d'après avoir une concrétisation rapide, puisque si on est sur des développements qui sont entre 3 à 6 mois pour avoir un reporting, ça se met très facilement en place. Mais il faut que ce soit porté.
Alors justement, on a parlé un peu de réglementaire, on est dans le reporting, on rentre dans le sujet. Romane, Mathieu, quels défis réglementaires les entreprises vont devoir anticiper concernant leur reporting ESG? On imagine qu'un des enjeux importants, ça concerne évidemment toute la bataille un peu européenne qui a lieu à Bruxelles et également le fait d'arriver à consolider des données quanti-quali.
Exactement. Déjà, c'est anticiper donc le reporting. Donc, si elles sont soumises, par exemple, justement à la CSRD, au rapport de durabilité, c'est anticiper tous les travaux qu'il y a à faire pour avoir son rapport tout beau, tout propre. et ensuite, c'est se mettre en marche aussi en interne pour voir quelles données et quantitatives on doit collecter et quelles données qualitatives aussi on doit faire. Et c'est vrai qu'on a moins l'habitude d'avoir des données qualitatives.
Quand on dit qualitatif, pour que les auditeurs comprennent.
Ça peut être quelles actions on fait. Donc en fait, les entreprises font des actions, mais il faut vraiment en parler dans le rapport, se dire qu'est-ce qui est mis en place dans l'entreprise, quels objectifs on a, quelles politiques aussi on a, par exemple au niveau social, est-ce qu'on a une politique RH, est-ce qu'on a une politique aussi environnementale sur la pollution, sur l'eau. Voilà, qu'est-ce qu'on a en termes de donc qualitatif, c'est en termes de narratif, en termes de pas l'inverse de quantitatif.
Ça rejoint aussi le fait que effectivement, du coup, c'est du narratif, c'est des données qui à la base sont plus du tout quantitatives et donc historiquement c'était les financiers qui géraient les data. C'est là où il y a un bond avec les ESG puisqu'on parle sur du narratif, du texte. Donc, il faut l'écrire Et par exemple, c'est pour ça que tous les systèmes financiers ne sont pas adaptés à faire de la collecte ESG, puisqu'on va partir, on va faire l'impasse sur toute la partie narrative qui ne sera pas dans les systèmes. Et donc ça, c'est une des particularités de ce sujet-là, c'est que les logiciels n'étaient pas adaptés, et c'est pour ça qu'on a une émergence de nouvelles solutions pour traiter les deux sujets et réunir le quantitatif et le qualitatif dans la même solution.
Donc si je comprends bien, il faut créer un lien entre la direction financière et la direction ESG qui peut être également sollicitée. Alors s'il y en a une, ou la direction générale dans une PME qui a envie d'y aller quand même. Mmh. Donc faut créer un pont entre les gens qui se parlaient, certainement, mais là, qui doivent travailler ensemble. Là, il y a un enjeu quand même.
Oui. Et il y a aussi un enjeu temporel, puisque historiquement, ceux qui faisaient déjà du reporting côté ESG le faisaient beaucoup plus tard en termes de déclaration et de publication que les enjeux financiers qui faisaient partie des rapports annuels qui, sont une obligation réglementaire. Après fin avril, il n'y a plus rien pour ceux qui clôturent au 31 décembre. Donc là, on a une problématique de timing, puisqu'il faut que les deux soient prêts au même moment, puisque les deux sujets alimentent le même document.
Et c'est un vrai sujet transverse, l'ESG, parce qu'on a beaucoup de contributeurs différents. On peut avoir la RH, les HSE, donc santé, sécurité,
l'IT,
oui. Cybersécurité, maintenant les sujets d'IA, tout ce qui est environnement. Donc on a beaucoup de contributeurs différents. On a la finance aussi, comme vous le disiez. Et donc il faut vraiment que tout le monde se parle et fasse ensemble ces travaux.
Je blaguais un petit peu au début de cette émission en parlant de l'acronyme XBRL, qui est quand même quelque chose d'assez aride pour ceux qui n'en ont jamais fait. Il nous reste trois minutes. Qu'est-ce que l'XBRL ?
Alors, justement, c'est un autre sujet aussi à anticiper, comme vous disiez. Alors, XBRL, je pense que Mathieu pourra encore plus l'expliquer, enfin mieux que moi, mais je vais essayer de le vulgariser pour les auditeurs. Donc XBRL, c'est vraiment un langage qui permet de mettre des balises sur, alors à la base, sur des chiffres. Donc par exemple, c'était pour le financier, donc on a un chiffre dans un document qui correspond au chiffre d'affaires. Donc on vient mettre une petite balise qui fait que, en fait, on voit que c'est le chiffre d'affaires, que c'est sur la période, par exemple, 2025, que c'est dans l'unité de millions d'euros. Donc ça nous permet d'avoir toutes ces informations-là et donc en fait...
Appeler par la suite, si le besoin.
Voilà, et en fait, tout ça sera lisible par les machines, c'est vraiment pour taguer, pour montrer en fait à quoi correspond chaque chiffre et aussi le narratif dont on parlait, tout le qualitatif. Tout ça, ça sera aussi tagué. Donc c'est aussi ça qui est un peu plus compliqué dans le rapport de durabilité, c'est qu'il y a beaucoup de narratifs et donc il faudra venir mettre des balises dessus. Et donc c'est le but de tout ça, c'est pour avoir quelque chose de beaucoup plus comparable, lisible par les machines, que ce soit comparable entre entreprises, entre même secteurs aussi.
Merci. Donc un langage commun, un langage informatique pour l'échange de rapports financiers via Internet. J'avais lu ça ici, mais bon.
Oui, pour avoir en fait une comparabilité qui soit vraiment maximale et surtout pour que on ait un document qui soit fait pour les humains, à savoir un contenu HTML, un PDF historiquement, et en même temps une information qui soit faite pour les machines et qui permette après de faire de l'agrégation de données. Très facilement, c'est-à-dire que les bases de données sont alimentées dorénavant avec les contenus XBRL et non pas quelqu'un qui a lu le document et qui a reporté l'information. Et donc là, on gagne beaucoup en fiabilité.
On arrive dans l'automation.
On
y arrive. Alors, justement, qu'est-ce que la digitalisation dans le reporting change concrètement pour les entreprises qui nous regardent, nos auditeurs? On est fin 2025. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça change?
Alors, pour le moment, pas grand-chose parce que les entreprises n'ont pas encore l'obligation de digitaliser leur rapport de durabilité, par exemple. Mais quand elles devront le faire, ça va changer. Donc, comme on le disait, il y a beaucoup plus de... plus comparable entre rapports, entre entreprises. Ça pourra être lisible donc, par les machines pour, par exemple, les investisseurs, les analystes, les régulateurs. C'est vraiment avoir plus de données, plus pertinentes, plus précises, tout ça. Et en plus, donc, les entreprises doivent quand même commencer à réfléchir à leur digitalisation de par exemple, de leur rapport durabilité ou leur rapport RSE pour ne pas se dire à la fin, quand elles arrivent au moment où ça doit être, où c'est dans l'obligation de le faire, elles vont se dire « Ah, en fait, il fallait digitaliser mon rapport et du coup, tout déstructurer à la fin. » Il faut vraiment penser aussi le rapport avec la digitalisation pour qu'il soit bien structuré dès le début. Et on a aussi les FRAG qui a proposé un convertisseur de la norme volontaire ESRS pour avoir un rapport volontaire pour les petites entreprises qui seraient en XBRL. Donc même pour les petites entreprises où elles ne seront pas dans l'obligation de faire un rapport XBRL, elles pourront le faire.
D'accord. Donc on voit bien les enjeux par rapport à la possibilité de communiquer plus rapidement l'information et de façon plus nette, mais il y a aussi des enjeux, pas contraintes, mais des enjeux d'anticipation, et on revient au fait effectivement d'agir dès aujourd'hui pour, si on le souhaite, être dans la proactivité plutôt que de subir.
C'est ça.
Oui, pour pas avoir à détricoter le pull au vert qu'on vient juste de faire.
Mmh. Ouais, avoir un peu de vision.
C'est ça.
Qu'est-ce que vous souhaitez à votre thématique reporting ESG pour l'avenir ?
Qu'elle prenne l'ascendant sur d'autres problématiques qui sont pour l'instant beaucoup plus financières en termes de reporting, et surtout qu'on arrive à faire le lien entre ces deux thématiques, à savoir la finance et l'extra-financier, parce que là, par définition, elles sont vraiment très opposées, alors qu'en fait, l'une doit alimenter l'autre et vice-versa. C'est-à-dire que si on arrive à chiffrer financièrement le non-impact ou la non-avancée en termes de reporting ESG, c'est ce qui va permettre de valoriser les actions et qui va montrer que, en termes de développement de business, c'est le chemin à prendre.
Roman, le mot de la fin.
Je souhaite que la thématique ESG ne soit pas qu'une question de conformité, mais que ça montre aussi comment ça peut créer de la valeur, qu'est-ce qu'il y a derrière comme action concrète, et que ça montre vraiment une vision stratégique d'entreprise au niveau de l'ESG.
Merci à tous les deux.
Avec plaisir.
Pour ma part, je vous remercie, vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés sur les plateformes de streaming et sur Be Smart for Change. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Smart Report. Merci à tous.